Est-ce que les vœux et la viande sacrée te débarrasseront de ton mal? Est-ce que c'est toi qui vas te débarrasser de ton mal? Ou bien est-ce que tu vas recevoir la guérison? C'est une chose étonnante et cependant essentielle, recevoir la guérison. Donc je peux prendre des remèdes qui vont me guérir, mais la recevoir comme un cadeau. Être entièrement démuni entre les mains d'un médecin, d'infirmier, d'infirmière, recevoir. Est-ce que les vœux et la viande sacrée te débarrasseront de ton mal? Pourrais-je pour cela te rendre pur? On dirait que Dieu hésite lui-même. Olivier verdoyant à la belle statue, ainsi le Seigneur t'avait nommé. À grand fracas, il met le feu à son feuillage, ses rameaux brûlent. On dirait que le Seigneur doit encore me purifier de l'intérieur de son feu. Et le feu du Seigneur est amour. Hein? Et le Seigneur des armées, qui t'avait planté, a décrété contre toi le malheur en raison du crime qu'ont perpétré la maison d'Israël et la maison de Juda pour mériter en encensant Baal. Ça, c'est un peu une conclusion moralisante. Et cette conclusion vient probablement de l'époque où on a mis les différents oracles en livre de la rédaction définitive, comme nous disons. Et on n'a pas encore perçu, celui qui a fait ça n'a pas encore perçu le drame intime de Jérémie. Il en a perçu quelque chose, sans doute, puisqu'il cite l'oracle, mais il ne va pas jusqu'au bout. Qu'est-ce que vous venez faire dans ma maison? Je crois que c'est important. Et c'est un peu pour cela que dans nos célébrations, il y en a qui, un certain nombre parfois, qui le reprochent. Mais vous avez tant de fois dans une célébration les demandes de pardon. Depuis le début jusqu'à la communion, je ne suis pas digne. Et certains disent, les psychologues notamment, mais pourquoi ressasser toujours cela? Ah, si c'était évidemment pour faire advenir la culpabilité, ça serait tout à fait raté, mais ce n'est pas ça. C'est pour nous dire, mais regarde devant qui tu te trouves. Regarde celui qui t'aime. Et la profondeur de son amour, il veut te sauver, il veut te guérir jusqu'au plus profond de ton être. Est-ce que tu te laisses sauver? Au moment où tous les médicaments que j'ai pris ne servent plus à rien, est-ce que je me laisse sauver par l'amour? Le Seigneur m'en avertit. Je suis renseigné, ici on mélange un petit peu dans mon édition, on mélange un petit peu des versets du chapitre 12 et des versets du chapitre 11. Patience, je le lis comme je l'ai ici. Le Seigneur m'en avertit, je fus renseigné. C'est alors, ce Seigneur, que tu m'ouvris les yeux sur leur manœuvre. Oui, même tes frères et ta famille sont faux avec toi. Eux-mêmes par derrière te critiquent à pleine voix. Ne te fie pas à eux quand ils te disent de bonnes paroles. Et moi, j'étais comme un agneau confiant qu'on mène à l'abattoir. Nous retrouvons justement les mêmes expressions que dans le deuxième Isaïe, comme la brebis tondue, à ceux qui la mènent à l'abattoir, ignorant ce qu'ils tramaient contre moi. Détruisons l'arbre dans sa vigueur, arrachons-le de la terre des vivants, qu'on ne se souvienne plus de son nom. Ça, c'est Dieu contre le prophète. Allez, qu'on élimine ce gars. Il nous ennuie. C'est un peu compréhensible hein, qu'il ennuyait les gens. Mets-toi, Seigneur des armées, qui juge avec justice, qui scrute les reins et le cœur, puissais-je voir la vengeance que tu tireras de ces gens, car c'est à toi que j'ai remis ma cause. Moi, j'en peux plus, hein. J'en peux plus. C'est à toi de tirer d'affaire avec eux. Mais je voudrais bien que tu te venges quand même contre eux. Et on voit justement, et c'est ça que j'aime bien, c'est lui, on voit justement combien son intention est mélangée. Au moment même où il dit au Seigneur de le purifier. C'est extraordinaire ça. Il perçoit le mélange de son intention. Aussi, le Seigneur a parlé de la sorte contre les gens d'Anatote qui en veulent à ma vie. Qui disent, tu ne prophétiseras pas au nom du Seigneur, sinon tu mourras de notre main. Il voit que Jérémie est passé dans le clan de Jérusalem, les gens d'Anatote ne pouvaient pas officier dans le temple de Jérusalem. Mais il voit qu'il est passé de l'autre côté, et ils lui en veulent. Ça commence toujours par là, hein, par les relations les plus proches. Tu ne prophétiseras pas au nom du Seigneur, sinon tu mourras de notre main. Un peu comme dans l'évangile de Marc, là, on voit les gens de Nazareth qui veulent aller remettre la main sur Jésus pour le ramener dans le giron de Nazareth. Hein. Voici que je vais les visiter. Leurs jeunes gens mourront par l'épée, leurs fils et leurs filles par la famine. Pour eux, pas de quartier. Quand j'amènerai le malheur sur les gens d'Anatote, l'année de ma visite. Et voyez, du côté du Seigneur, ça reste encore ambigu aussi. Est-ce que c'est la façon dont Jérémie voit? Et donc il faut que Jérémie soit lui-même purifié, même le prophète. Même le prophète qui parcourt le pays, même le prêtre, même le prophète qui parcourt le pays ne comprend. Pourrais-tu donc rejeter Judas? Voilà. Je crois que nous sommes petit à petit, hein, nous avons pénétré petit à petit comme cela.
Tu as bien galopé.
Au cœur du prophète. Ah, il faut qu'on voit 10 par jour. Hein. 10 chapitres par jour, puisqu'il y en a 50. Mais l'important à travers tout ça, c'est pour ça que c'est très difficile de lire ça tout seul. Parce que lire ça tout seul est très fastidieux. Mais quand on remet un peu cela en scène, on voit bien ce va-et-vient de la conscience d'un homme responsable et qui n'en peut plus de sa responsabilité. Et qui découvre à travers tout cela la profondeur de l'amour du Seigneur, trop loin, trop proche.
Il a fait vivre dans le cœur, dans la vie.
Conseillère générale m'a bien conseillé. Alors je lis le petit texte qui est écrit dessus, puis plusieurs ont ajouté un petit mot personnel. Dieu seul peut donner l'espérance, mais tu peux rendre confiance à tes frères. Dieu seul peut donner l'amour, mais tu peux apprendre à l'autre à aimer.
Merci beaucoup. C'est le texte ce matin, le texte de l'hymne
Voilà l'enveloppe.
Merci beaucoup. J'aime bien cet hymne. Ce n'est pas moi qui dois venir, je ne suis qu'une voix clamant dans le désert. Ami, je ne suis pas celui qui doit venir, il faut le dire. Mais le Verbe vivra, il vivra dans la chair. Celui qui doit venir n'aura pas mon visage, mais il aura ma voix de feuilles et de nuages. Et son appel réveillera les morts entre les morts pour un autre partage. Il me reste ma joie, et si je vous la donne, il ne me reste rien. Voilà pourquoi je vous la donne. Ne tenez pas ma main, je dois aller par des chemins où ne passe jamais personne.
Pardon ? C'est quoi, c'est que ces chemins où ne passe personne ?
C'est sa mort martyre,
tiens. Il termine en prison, oui. comme tous les apôtres, hein. C'est leur lot. On suit Jésus. Ah oui. C'est le chemin. C'est justement ce que Jérémie nous dit. Hein? Jérémie est, en ce titre-là, un précurseur du précurseur, un précurseur de Jean-Baptiste. Alors, un petit coup d'œil sur le rétroviseur, comme nous faisons généralement. Nous avons vu, donc, dans le livre de Jérémie, il n'y a pas tellement d'ordre, en tout cas pas d'ordre logique que nous puissions percevoir immédiatement dans les oracles de Jérémie qui sont mis bout à bout. Et nous avons vu que c'est quelqu'un qui a été choisi par le Seigneur pour déranger les gens de ses contemporains et pour essayer de leur donner une perception beaucoup plus spirituelle, une perception intérieure des événements. Il se trouve dans une période extrêmement troublée, où, comme nous l'avons vu, après le règne de Josias, qui avait très bien commencé, mais qui s'est arrêté brusquement par la mort prématurée du roi, on se trouve devant un chaos. Chaos au sujet des gouvernants. Ils ne savent plus très bien de quel côté aller. Ils se trouvent entre le nord et le sud, entre la Mésopotamie et l'Égypte, et ils sont attirés par les plus offrants, exactement hein, comme pour les programmes des élections. Chacun a son programme et il essaye d'attirer les gens. Mais de les attirer à quoi ? À une réforme de la société, mais aussi à eux-mêmes. Et nous voyons là que les motivations sont toujours mélangées. Et Jérémie est un homme qui a une conscience, je dirais, très sensible, très profonde, exacerbée, pourrait-on dire, de ce mélange de nos intentions. Il n'y a aucune intention qui est véritablement pure. Et donc, il faut nous laisser purifier par qui ? Ce ne sont ni les Mésopotamiens ni les Égyptiens qui vont assainir la situation. Ils feront tout ce qu'ils peuvent, c'est-à-dire pas grand-chose. Ils peuvent faire un certain progrès à la société, mais des réformes, on a eu celle de Josias, mais cette réforme elle-même est mise en question. Et donc vous voyez que petit à petit, Jérémie nous montre que toutes les réalités auxquelles nous tenons sont mises en question. Il n'y a aucune qui ait une valeur absolue. Sauf la présence et la personne du Seigneur. Pas même telle qu'on la voit, parce qu'on la voit souvent très mal. On ne voit qu'un aspect. Mais toutes ces réalités, même les plus chères, sont mises en question, excepté la personne de Dieu et son alliance avec Israël, et donc aussi son alliance avec chacun et chacune. Il est celui qui nous constitue intérieurement, qui nous a choisis, qui nous a sortis de l'esclavage, qui nous mène et que nous abandonnons. que nous abandonnons pour le plus offrant. Et donc, nous vivons vraiment, en grande partie, dans l'illusion. Et Jérémie est fait pour un peu saper nos illusions. Et donc, nous faire découvrir, au fond, la véritable espérance. La véritable espérance n'est pas, la plupart du temps, où nous la mettons. Et regardez, nous avons vu le chapitre 7e, qu'est-ce qui est mis en question? Le culte, la présence du Seigneur. On se glorifie de la présence du Seigneur. Il est là, vous savez, il est là. Il est là, oui. Montre-le dans ta vie qu'il est là. Et on voit bien que dans notre vie, nous ne sommes pas capables de manifester sa présence. La loi, mais nous l'avons, la loi, hein? Nous l'avons. Où est-elle? Ah, dans le coffre-fort. Ah non. Mais montrez que vous avez la loi et qu'elle vit dans votre vie. Et nous avons le bon droit quand nous allons chez les Égyptiens. Non, c'est quand nous allons du côté des Babyloniens. Où est le bon droit? Il est dans la présence de Dieu qui doit bien passer par Babylone. Quand on le met au service de Babylone et qui passe par l'Égypte, quand on le met au service de l'Égypte. Car Dieu, on lui fait faire tous les métiers. Et donc, ayez une conscience un peu plus proche du Seigneur, plus délicate, et nous avons vu que cela finit par transpercer le cœur de Jérémie. Ce que vit son peuple, hein, aller d'un côté et de l'autre, ce mélange des intentions, ce que vit son peuple, il le vit lui aussi à l'intérieur. Et en cela, il est très proche, très solidaire de son peuple. Dans le petit cahier évangile de Jacques Brien, il parle de cela aussi. Il dit, ben voilà, pessimisme anthropologique sur le plan de l'humanité, hein. Le prophète montre que ça ne va pas très bien et que ça n'ira pas mieux. On fait quelques aménagements, hein. il y a des progrès, mais ces progrès ne sont pas du tout absolus, sensationnels. Donc il manque pessimisme anthropologique sur le plan de l'humain, et d'où appel à la conversion, mais à la conversion intérieure. La prédication du prophète, dit-il à la page 28, ne se réduit pas à la dénonciation du péché, car elle a toujours pour but la conversion du peuple. D'où l'importance de ce retournement, retournement intérieur, mais retournement vers Dieu. Et alors, il parle du châtiment de Dieu devant cette incompréhension du peuple. Que faire ? Dieu va jusqu'à exprimer son désir de quitter son peuple et de s'en aller. Dieu va dire, je plie bagage. C'est une manière de dire que Dieu devrait se désintéresser de nous puisque nous nous désintéressons de lui et que notre conduite n'est pas à l'unisson de ce que nous prétendons vivre. Et il n'y a pas une catégorie de peuple qui échappe. Tous tombent sous la même, j'aime pas de dire condamnation, mais sous la même constatation. C'est à ce niveau-là que nous nous situons. Dieu constate. Mais ce n'est pas parce qu'il constate que cela va mal qu'il va se désintéresser. Ce n'est pas parce qu'il constate que les gens sont incorrigibles, qu'il ne va pas continuer de les corriger. Ah oui, il y a un petit entrefilet sur les illusions. C'est comme ça qu'il termine son premier chapitre, à la page 29. Si les autorités civiles et religieuses ne jouent pas le rôle que l'on pouvait attendre d'elles, le peuple est donc en danger de ne plus posséder un quelconque point de repère. Voilà bien la situation. Où va-t-on? Que faire? La relation entre Dieu et le peuple est même faussée par la place accordée à certaines médiations, le temple, le culte, la loi, c'est ce que je vous dirai, dont on attend tout, mais qui se révèlent être des illusions. Ce n'est pas que la présence de Dieu soit une illusion, ni la loi, mais ce qui est une illusion, c'est la manière dont nous voyons les choses. Nous ramenons toujours les choses à notre compréhension. Et nous pensons finalement que notre compréhension, c'est la réalité. Non. C'est un aspect, c'est une perception des choses. Le temple est l'une des médiations les plus prestigieuses, puisque c'est là que Dieu a fait habiter son nom. Et il le répète. Et c'est l'expression que vous retrouvez constamment dans le Deutéronome, qui est de la même encre. Hein. C'est là que Dieu a fait habiter son nom, et la présence du temple à Jérusalem semble à beaucoup le garant intangible du salut, et donc de l'avenir du peuple. Et c'est vrai, tout ça n'est pas faux du tout, mais comment est-ce vécu? Les paroles rassurantes de certains prophètes pouvaient s'appuyer sur l'existence de ce lieu saint qui dominait toute la ville de Jérusalem. Jérémie bouscule cette belle assurance par un discours qui met en question la trop facile confiance placée en cette institution sacrée. À quoi sert d'aller dans le temple qui porte le nom de Dieu si c'est pour ne pas accomplir la volonté divine telle qu'elle est exprimée dans le Décalogue? Pour donner plus de poids à sa parole, le prophète annonce la destruction du sanctuaire. Et ça paraît évidemment un blasphème. S'il n'y a pas de conversion, ce sanctuaire sera détruit comme celui de Silo, l'un des sanctuaires du Nord disparu un siècle plus tôt lors de l'invasion assyrienne. La confiance illusoire qui entoure le temple de Jérusalem est dénoncé avec la même énergie par le prophète lorsqu'il s'agit du culte pratiqué dans ce sanctuaire. Illusion également que la possession de la loi, nous possédons la clé, nous possédons la vérité. Montrez-le. À propos de laquelle Jérémie interroge le peuple en disant: « Comment pouvez-vous dire, nous sommes sages, car la loi du Seigneur est avec nous. » Oui, mais elle est devenue un mensonge sous la plume de mensonges des scribes. La manière dont vous interprétez votre loi, c'est toujours la tournée vers vous. Cette loi est un mensonge aux yeux du prophète. Pourquoi? Si la loi écrite est simplement un texte où l'on puise une assurance tranquille sans s'engager personnellement, elle n'est que mensonge. Dans ces conditions, ceux qui se croient sages ne tarderont pas à être confondus parce qu'ils ont méprisé la parole du Seigneur. Leur faute consiste à ne pas avoir découvert la parole de Dieu comme principe de vie à travers le texte écrit de la loi. Cette parole dont Jérémie avait l'expérience intime et pour laquelle il a souffert. Alors, direz-vous, il n'y a plus de solution. Il n'y a plus de solution humaine. Donc, ne mettez pas votre confiance ni dans votre travail, ni dans vos efforts, mais recevez la confiance comme un cadeau gratuit du Seigneur. Et donc, il y a une échappatoire, même c'est une voie merveilleuse, mais il faut l'apercevoir. Et en écho à ce texte, je prends un passage justement du père Émile Chouffani, dont je vous ai parlé hier, comme un veilleur attend la paix, où nous avons affaire à un prêtre arabe, chrétien, israélien, il fait partie de l'État d'Israël, il est israélien, et il croit en l'homme, en l'un comme en l'autre. Et voici son fondement. « qu'est-ce qui fonde chez vous cette croyance en l'homme ? Hein, demande celui que Hubert Prolongeau qui fait ce livre, mais en collaboration avec le père Choufani. Sur quoi est-ce que tu te fondes finalement ? L'homme a été créé à l'image de Dieu. Chacun de nous, que nous le sachions ou non, sommes détenteurs d'une parcelle divine. Et ce souffle divin est un point commun qui peut toujours éveiller en nous un élan de bienveillance vis-à-vis de l'autre. Il est toujours possible à un homme, quelle que soit sa dureté, d'être frappé d'un coup par cette ressemblance qu'il découvre chez l'autre et qui fait alors fondre toutes ses défenses. Dans cette perspective, le dialogue n'est jamais définitivement impossible. Dans le peuple juif, il y a ainsi des hommes qui ont accepté des conversions extraordinaires. Et alors il parle de Menachem Begin et de Yitzhak Rabin. Des hommes ou des femmes comme eux incarnent réellement quelque chose dans l'histoire d'Israël. Ils illustrent ce retournement toujours possible que prônaient les prophètes bibliques. Et il reprend cette idée. Et alors, on lui demande, mais enfin, quand vous vous trouvez devant toutes ces situations, vous n'avez aucun sentiment ? Vous restez impassible ? Non. Non. Et nous allons justement passer à cette deuxième étape du livre de Jérémie. C'est exactement ce qu'illustre le père Choufani. Je passe par des tas de sentiments souvent contradictoires quand j'entends la énième annonce d'un de ces attentats. On parle justement des attentats suicides. Ma première réaction, c'est l'horreur. L'horreur qui laisse sans voix. Dans le même temps vient aussi le refus, la condamnation radicale qui restera la mienne, quoi qu'il arrive. Quelles que soient les exactions dont se sont rendus coupables en telle ou telle circonstance, les soldats et les politiques israéliens. Ma deuxième réaction, c'est la tristesse. Une immense tristesse pour les victimes. Les victimes et leurs familles, quelles qu'elles soient. Mais en l'occurrence, qui est la victime ? Le terroriste mort ou les innocents tués ? Les deux. Ma compassion va tout naturellement vers ceux qui se trouvaient dans un bus, un restaurant, dans la rue, sans savoir qu'ils allaient à la mort. L'homme n'a pas été créé pour mourir de mort violente, mais il n'a pas été créé non plus pour se donner la mort. Et à mes yeux, le suicidé est aussi une victime. Et alors, il parle de ces images qu'il avait encore en tête dans la guerre du Vietnam, des bonzes qui se suicidaient par le feu. Après avoir éprouvé cette tristesse, continue-t-il, qui me submerge à chaque fois et me fait souvent pleurer, j'essaye de me ressaisir et de comprendre, pas de justifier. Je le refuse dès le départ et je n'ai pas besoin de me forcer, car tout mon être se révolte contre de tels actes. Jamais de justifier donc, mais de comprendre. De me poser la question que l'on essaie toujours d'éviter, car on a l'impression qu'elle est taboue. Qu'oser la formuler est peut-être déjà de la faiblesse, voire de la complicité. Cette question vertigineuse est la suivante. Comment un jeune garçon ou une jeune fille de 18 ans peut-il se dire « J'abandonne tout, ma famille, mes amis, mes amours, mes projets, je détruis tout cela et je mets fin à ma vie en entraînant dans la mort des personnes qui avaient aussi leur famille, leurs amis, etc. et que je ne connais même pas. » Pour moi, les êtres qui passent ainsi à l'acte sont utilisés. Ils ne sont ni fous, ni monstrueux, au sens où ils seraient nés comme ça, où ils auraient le crime dans le sang, comme prétendent certains. Ce n'est même pas leur culture qui a pu les amener à ce geste, car encore une fois, l'islam respecte la vie, Il n'est absolument pas une culture de mort, comme on voudrait parfois le faire croire. Ces êtres sont utilisés, non pas au sens où on leur aurait offert de l'argent pour leur famille, ou fait subir un lavage de cerveau, même s'ils ont été influencés, mais en un sens beaucoup plus profond. L'élément qu'on retrouve toujours chez eux, c'est un engagement total au nom de Dieu. L'idée que l'on ne fait pas la guerre pour soi, pour son chef, pour sa patrie ou pour son peuple, mais carrément pour Dieu. Ce qu'il veut souligner, c'est qu'il y a quelque chose d'absolu. Et que l'absolu nous dépasse vraiment, mais passe à travers nous. Et nous devons l'interpréter. Ce qui implique que chaque mort est en quelque sorte une offrande sacrée. La mort, la sienne ou celle des autres, perd son caractère horrible pour devenir l'élément d'un acte sacré. Et donc, un événement plus que positif, sublime. Je le répète, ne m'en lasserai pas, même si le vocabulaire employé est ici celui de l'islam, c'est celui qui l'utilise, bien sûr, il s'agit d'une déviation, d'une perversion, d'une hérésie qui s'oppose à tout ce que porte de vivant la culture musulmane. Donc il essaie de comprendre à partir même de la culture musulmane. C'est ça qui est important. C'est pour ça qu'il a été conduit des chrétiens, des juifs et des musulmans à Auschwitz pour leur dire, mais essayez un peu de comprendre la réaction des Israéliens aussi, d'où ils viennent. Donc essayez de comprendre l'autre à partir de ce que l'autre vit, pas à partir de moi. Pour vous donc, la misère sociale et psychologique dans laquelle vivent les Palestiniens ne pouvait provoquer à elle seule ces actes à la fois criminels et désespérés ? Expliquer ces attentats suicides seulement par la souffrance sociale, par le fait que le suicidé a vu souffrir ses parents, ses frères, son peuple, ou qu'il est lui-même désespéré, ne m'a jamais semblé très probant. Évidemment, le terreau de l'impasse sociale et politique est là, comme pour Jérémie, qui permet à la haine de s'enraciner et à toutes les manipulations de croître et de se multiplier. Mais on sait bien que les acteurs de ces attentats n'étaient souvent pas eux-mêmes particulièrement défavorisés, traumatisés ou esselés. Certains semblaient même aimer la vie, avoir un avenir. Ce n'est pas non plus la seule cause palestinienne qui provoque ces comportements. Le problème existe depuis 50 ans et il n'a jamais abouti à ces excès jusqu'ici inimaginables. Non. Nous assistons à un phénomène totalement nouveau et terrifiant. On ne meurt plus pour une cause sociale ou politique. On meurt et on tue pour Allah. Ce qui rend toute considération humaine inopérante. Peu importe l'innocence des victimes, le fait qu'ils aient des enfants à l'endroit où on va se faire exploser, peu importe l'impact politique négatif de l'acte, peu importe les représailles à venir, qui vont faire encore souffrir les siens, puisque tout cela est exigé par la volonté de Dieu, Inch'Allah, s'il plaît à Dieu. Voilà pourquoi il ne fallait pas toucher au lieu saint. C'était une folie qui ne pouvait entraîner qu'une autre folie. Mais celle-là est collective et contagieuse. Et c'est ça, comme il le dit, qui le met dans une profonde tristesse. C'est une non-perception de la réalité profonde de Dieu, tout en invoquant Dieu. Et donc ça nous permet une purification beaucoup plus profonde encore de toutes nos images de Dieu. Et c'est justement à cela que Jérémie veut en venir. Vous mettez Dieu comme la rubrique essentielle, comme la réalité profonde de votre vie. Vous mettez la loi, vous mettez même l'alliance. Mais qu'est-ce que vous vivez à l'intérieur de vous-même? Et qu'est-ce que nous vivons à l'intérieur de nous-mêmes? Une extrême pauvreté, une extrême fragilité. Et nous voulons toujours nous défendre contre notre fragilité et chercher des justifications. Or, il n'y a pas de justification à chercher. Il y a à nous reposer dans celui qui nous aime. Et donc, il réclame de nous une profonde attitude de remise de nous-mêmes. Et c'est ce que nous allons voir justement au moment où nous abordons le chapitre 11-12, c'est pour ça que je me suis arrêté à cet endroit-là, parce que nous allons avoir devant nous cinq passages que l'on appelle les confessions de Jérémie. De quoi s'agit-il dans une confession? Il s'agit d'un rapport intime. Une confession, c'est une rencontre au niveau de la fragilité la plus grande de notre être, où nous pouvons vraiment être à nu devant l'autre. Et devant l'autre, qu'est-ce que j'ai à dire? Un seul mot, pardon. Pardon. Et ce pardon peut prendre différentes formes. Jésus a fait ce geste. Au moment où, après, probablement avant, puisque Saint Jean nous le dit, au moment de célébrer l'Eucharistie, avant de la célébrer, il y a cette célébration du pardon. Jésus demande pardon à ses disciples en leur lavant les pieds. Vous m'appelez maître et seigneur, et vous dites bien, je le suis. Eh bien, quelle est la fonction du maître et seigneur? Se mettre à genoux devant son frère qui va trahir, qui va renier, qui va lâcher. C'est exactement ça. C'est une manière de dire, j'entre avec toi dans le pardon du Seigneur, dans ce don qui va au-delà, qui traverse toutes tes infidélités, toutes tes impuissances, toute ta méchanceté, et qui vient rejoindre le plus intime de ton être. Je viens te rejoindre là où tu es désespéré. Je viens te rejoindre là où tu es méchant. Parce que tu sois, il y a en toi, comme le disait le père Choufani, il y a en toi une étincelle de Dieu. Et c'est cela que je rejoins. Au-delà de tout. Et voilà, nous allons trouver, nous avons déjà commencé à trouver, dans Jérémie, qui se trouve persécuté par ses proches, par sa famille, à Anatote, ne prophétise plus. Tu nous attires des ennuis, tu ne fais que ça. Ça retombe toujours sur nous. Et on vient nous démolir nos maisons. Tout ça, c'est pas de l'ancien, c'est de l'actuel. Et le voilà qui arrive au chapitre 12e, c'est la première confession. Il vient trouver le Seigneur. Il vient le rejoindre. Au-delà de sa tristesse, au-delà de son amertume. Tu as le droit pour toi, Seigneur. Chapitre 12, verset 1. Quand je prétends requérir contre toi. Donc il se révolte. Et c'est le premier mouvement. Je voudrais seulement débattre avec toi un point de justice. Puisque le sort des pourquoi, pardon, le sort des méchants est-il prospère? Et là, il rejoint tout à fait Job. Hein. C'est exactement la même encre. Pourquoi le sort des méchants est-il prospère? Regardez ces gens-là, tout va bien pour eux. Ils tuent et tout va bien. Ils profitent et tout va bien. Pourquoi le sort des méchants est-il prospère? Pourquoi tous les perfides goûtent-ils la paix? Les malhonnêtes, ils goûtent la paix. Tu les plantes, ils s'enracinent, ils viennent bien, ils portent du fruit. Pourtant, tu n'es près que de leur bouche et loin de leur rein. C'est-à-dire, ils vont bien extérieurement, mais tu n'es pas en eux. La présence de Dieu n'est pas en eux. Mais comment peux-tu supporter ça? Mais toi, Seigneur. Et voilà. Il revient et il s'épanche. Mais toi, Seigneur, tu me connais. Tu me vois. Tu éprouves mon cœur. Il est avec toi. Je n'ai plus besoin de m'évaluer moi-même. Je me laisse connaître par toi. Je me remets vraiment à ton jugement. Mais toi, tu me connais, tu me vois, tu éprouves mon cœur, il est avec toi. Enlève-les comme des brebis pour l'abattoir. Réserve-les pour le jour du massacre. Moi, je suis une brebis d'abattoir, mais eux aussi, hein. C'est le péril. Ça, ce sont les sentiments de vengeance qui sont normalement en nous. Il ne faut pas nous leurrer. Et puis vous avez donc le texte qui a été ajouté probablement par un scribe. Jusqu'à quand le pays sera-t-il en deuil et l'herbe de toute la campagne desséchée? C'est par la perversité de ses habitants que périssent bêtes et oiseaux. Car ils disent, Dieu ne voit pas nos chemins. Dieu n'existe pas, j'en ai pas besoin. C'est fini. Ça c'était autrefois, hein. Les ringards se préoccupent encore de Dieu. Maintenant on est quand même... Dans la modernité, on n'a plus besoin de Dieu. Si la course avec des piétons t'épuise, comment lutteras-tu avec des chevaux? Et si dans un pays tranquille, tu n'es pas sûr, que feras-tu dans les halliers du Jourdain? Réponse énigmatique. Dieu dit, continue. Continue de faire ton expérience. Continue. Je suis avec toi. De manière discrète, tu voudrais que je sois plus explicite, mais je suis avec toi. Et voici que, dans la plainte de Jérémie, Dieu se glisse. Qui continue? Jérémie, Dieu, l'un et l'autre. J'ai abandonné ma maison, quitté mon héritage. Ce que je chérissais, je l'ai livré aux mains de ses ennemis. L'héritage de Dieu, c'est Israël. C'est sa part. Mon héritage s'est comporté envers moi comme un lion de la brousse. Il a poussé contre moi ses rugissements, je l'ai pris en aversion. Mon héritage serait-il un oiseau au plumage diapré? Que les oiseaux arrivent sur lui de toutes parts. Allez, rassemblez-vous, toutes bêtes sauvages, venez à la curée. Des pâtres nombreux ont saccagé ma vigne, piétiné mon champ, réduit mon champ tant aimé en package inculte. C'est Dieu qui se plaint, dans la plainte de Jérémie. Ils en ont fait un désert lamentable, en friche devant moi. Tout le pays est dévasté, personne ne s'en émeut. Sur tous les monts chauves du désert sont arrivés des dévastateurs. Et un scribe a ajouté, car le Seigneur tient une épée dévorante, d'un bout du pays jusqu'à l'autre. Il n'y a de paix pour aucune chair. Ils ont semé du blé, ils moissonnent des ronces. Ils se sont épuisés sans profit. Ils ont honte de leur récolte à cause de la fureur du Seigneur. Le Seigneur est à la fois la victime et le bourreau, en quelque sorte. Il est présent dans l'un comme dans l'autre. Le Seigneur doit faire avec ce que l'homme lui donne. Ainsi a parlé le Seigneur. Tous mes méchants voisins qui ont touché à l'héritage que j'avais donné à mon peuple Israël, voici, je vais les arracher de leur sort. C'est la même loi de la jungle pour les uns comme pour les autres. Mais ça ne mène à rien tout cela. Les guerres ne servent à rien. Mais la maison de Judas, je l'arracherai du milieu d'eux. Ça, c'est aussi ajouté. Mais après les avoir arrachés à nouveau, j'en aurai pitié. Et je les ramènerai, chouve de nouveau, je les ramènerai, chacun en son héritage, chacun en son pays. Et s'ils apprennent avec soin la voix de mon peuple, de façon à jurer avec mon nom par le Seigneur vivant, comme ils ont appris à mon peuple de jurer par Baal, alors ils seront établis au milieu de mon peuple. Ma miséricorde est pour tous. Elle n'est pas seulement pour certains, pas pour d'autres. Mais elle doit traverser leur méchanceté. Mais s'ils ne veulent pas m'écouter, j'arracherai pour de bon une telle nation et l'exterminerai, oracle du Seigneur. Autrement dit, voilà ce qu'ils méritent. Ce n'est pas que le Seigneur veut arracher quelqu'un, mais ils méritent cela, parce qu'ils s'enferment dans leur violence. Et alors vont commencer ici quelques mimes du prophète. Vous savez que les prophètes aiment bien non pas seulement de dire, mais de vivre, de mimer, d'avoir des gestes significatifs. Et Isaïe, qui un beau jour prend une pioche et un sac, fait un